Radio Galère 88.4 de la bande FM marseillaise DAB+. L'histoire continue et permanente, une émission d'Éric Lebreu. Aujourd'hui, mémoire de militants, Jacques Churquet du Maquis au Maoïsme, 7e partie, dans le Maquis jurassien 1943-1944.
Trois lettres qui restent comme la signature de ceux qui ont libéré la ville. FFI. D'où viennent ces trois lettres désormais légendaires qui résonnent partout comme un coup de sifflet impératif et joyeux? FFI. L'épopée remonte aux jours sombres de la résistance clandestine. Des hommes, des femmes commençaient à faire entendre, secrètement, des paroles de courage. Des messages cheminaient. La vraie France se regroupait, se préparait au combat. Peu à peu, au sein de la résistance, les plus hardis passaient à l'action directe. L'armée du sabotage entrait en jeu. Des hommes risquaient leur vie pour désorganiser l'ennemi. Ses approvisionnements, ses transports. Les armes sortaient de leurs cachettes. Ainsi se constituait le noyau d'une armée véritable.
Tu peux m'expliquer un peu comment tu es rentré dans ce maquis, par quel réseau tu es pu rentrer et qu'est-ce que tu as fait?
Ben, à mon avis, moi je te dis tout de suite, hein, je suis un fils à maman. c'est pas moi qui ai eu les contacts, hein, c'est ma mère qui a eu le contact. Je pense que c'était l'organisation Combat, je suppose. Et elle s'est bien gardée de dire que j'étais communiste, etc., que j'avais des repartis communistes. Et je suis rentré dans ces maquis refuges d'abord. Et puis alors ensuite, quand il a fait trop froid, on est descendu. Et j'ai habité à Arbois, où j'ai été ouvrier piqueur rifteur en cartable, mais sous une fausse identité. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait les vraies cartes, les vraies fausses cartes d'identité et les fausses cartes d'identité. C'est-à-dire que les vraies fausses cartes, c'était des cartes dont les noms, les dates de naissance et tout étaient enregistrés ou à la préfecture ou dans des villages. Et les fausses cartes, alors c'était des cartes qui étaient montées de toutes pièces, qui n'avaient, si tu étais pris et qui avaient une vérification, on voyait tout de suite qu'il s'agissait d'une fausse carte. Je pense qu'en ce qui me concerne, j'avais une fausse carte. Et puis ma femme avait une vraie fausse carte, qui avait été donnée à la préfecture par le canal d'un commissaire de police qui devait s'appeler... Enfin, il a été célèbre après, il a été fait compagnon de la Libération, enfin un tas de trucs qui s'appelait Simonin ou quelque chose comme ça. Et... qui fut déporté sur la fin d'ailleurs, je crois. Et bon, ils avaient le courage de faire de vraies cartes à la préfecture pour les Israélites, pour les Juifs. Alors on a vécu toute cette période-là, et moi, quand je suis sorti de la forêt, j'ai retrouvé le Parti communiste à Arbois. Tout à fait par hasard, mais je l'ai bien retrouvé. En l'occurrence, un vieil homme qui devait être plus jeune que ce que je ne suis aujourd'hui, mais un vieux communiste qui était un ancien révoqué de la grande grève des cheminots de 1920, tu vois un petit peu, et qui était un petit viticulteur, tout petit, qui était un vieux communiste, mais qui n'avait pas bronché tout. Et puis en parlant, en bavardant, il me livrait du bois, tout ça. Il s'occupait des... Il avait compris tout de suite, lui, que j'étais un type qui avait pas, qui était pas dans une situation très régulière. On a parlé, et il m'a dit, mais tu es communiste? Je lui ai dit, ben oui, d'idées. Et, mais moi aussi, tout ça. Et on a décidé de reconstituer tout de suite un triangle qu'on a créé. Le père Loy, c'était son nom, Loy, L-O-Y-E. Et puis Bunevold, qui était un autre petit viticulteur, un autre petit vigneron. On a constitué un premier triangle. Et parmi les premières tâches qu'ils m'ont données pour faire ma preuve, la preuve du courage et de la sincérité, ils m'ont chargé, ça c'est en février 44, je pense, d'arracher toutes les affiches rouges de la région collées par les services municipaux sur ordre des Allemands. Tu sais ce que c'est que l'affiche rouge? C'est l'affiche de Manouchian. Effectivement, avec des grattoirs ou des couteaux, des choses comme ça, je me suis chargé correctement. Puis il m'avait chargé aussi d'imprimer par mes propres moyens des petits tracts contre l'impôt métal pour distribuer aux paysans. C'est une région paysanne, hein, c'était pas industriel là-bas. Et voilà, et là j'ai repris. Et tandis que mes autres camarades qui étaient avec moi au bois et qui étaient sortis, eux ils ont adhéré directement au mur qui s'était occupé de nous. Quand on était là-haut, ils ont adhéré au mur, au mouvement uni de la résistance, et assez rapidement d'ailleurs, ils ont fait des bêtises, ils ont manqué de vigilance, tout ça, il y en a plusieurs qui ont été arrêtés, il y en a qui ont été fusillés, comme César Personnetaz, et un nommé Émile, dont je ne sais pas l'identité, et mon copain Marius Carrier, qui était mon meilleur copain, a été pris, Bon, ça a été des moments assez terribles parce que nous avons assisté derrière nos volets à 5 ou 6 heures du matin à son arrestation. Il a réussi à s'enfuir par les toits comme nous l'avions préparé tous les deux d'ailleurs, envisagé. Mais le pâté de maison était entièrement encerclé et nous avons entendu les coups de mitraillette et il a crié « Avant Dieu, avant Dieu ». C'est un cri que je n'oublierai jamais de ma vie. Et il est parti, ils l'ont déporté au camp de concentration de celui où il y a eu tant de typhus de Dachau. Et ma foi, Carrier, c'était un petit ouvrier métallurgiste, il était jeune, hein, on avait le même âge tous. Et il est revenu. Et le premier qu'il est venu voir, évidemment, c'était moi. Il est vite venu me voir, m'en raconter sa vie. Il avait eu le typhus, le typhus l'avait sauvé. Parce que le typhus l'avait fait mettre à l'infirmerie du camp. C'est ce qu'il avait sauvé, d'être à l'infirmerie du camp. Parce que pendant ce temps-là, ceux qui étaient en bon état, ils étaient massacrés par les SS. Et voilà, et bon, ben là j'étais communiste, mais en même temps, au moment du débarquement, alors, l'état-major des FFI, qui avait des relations avec les FTP aussi et les communistes de toute la région, a demandé un secrétaire d'état-major, quelqu'un qui ait une formation intellectuelle, etc. J'étais désigné immédiatement. Le parti communiste m'a donné feu vert immédiatement aussi, et je suis donc devenu le secrétaire de Roger Robe, qui était un professeur de mathématiques, et puis j'ai travaillé avec l'abbé Jacques Charrière, qui ne nous avait jamais dit jusqu'à la libération qu'il était curé, et qui devint secrétaire de l'archevêque de Besançon, et on a fait les 400 coups ensemble, des trucs extraordinaires, et voilà, et alors là la guerre, c'était des sabotages de voies ferrées, tu vois, c'était des parachutages, c'était aussi, il y a eu des batailles armées, comme le combat des Arsures où j'étais, il y a eu des tas de choses. Mais bon, il y a comme incident très notable là-dessus, il y a le fait que peu de jours avant la libération définitive, c'est-à-dire l'arrivée des Américains et des Français de la première armée française, peu de jours avant, on était dans un village du côté de... Enfin, du côté du Doubs déjà, hein. J'ai été appelé par les jeunes maquisards qui étaient là. Ils m'ont dit, on a deux prisonniers dans une cave là, et ils demandent quelqu'un qui parle alban. Alors, moi je suis descendu, et je me suis trouvé en présence de deux SS, deux gaillards d'un 1m85, et un avait l'air vraiment en très piteux état, et l'autre m'a dit, vous parlez allemand, en allemand? Et oui. Il me dit, ben voilà, nous avons été pris il y a deux jours, et depuis on nous a donné ni à manger ni à boire. Moi je ne vous demande rien pour moi, mais pour mon camarade je vous demande de l'eau, un seau d'eau, parce qu'il a une balle dans la cuisse. Et effectivement, il avait une balle dans la cuisse. Alors, c'est des trucs très forts dans ma tête. Peut-être que la vieillesse du souvenir l'enrichit, mais ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que je leur ai dit tout de suite, écoutez, je vais vous dire une chose, moi je suis communiste et je suis juif. Je n'étais pas juif, mais j'étais communiste. Et qu'est-ce que vous auriez fait de moi si vous m'aviez pris? Alors, il s'est élancé à mes pieds, en me suppliant avec ses deux mains, et en criant, toujours en allemand, mon grand-père était communiste, et c'était la grand-mère qui était juive, puisqu'il disait Yehudin, c'est-à-dire juiveux, hein. Et je vous en supplie, etc. J'ai dit, oui, mais en attendant, vous avez tête de mort, là, hein. Puis finalement, je leur ai rien dit, je suis reparti. Et naturellement, parce que je n'étais pas un fasciste comme eux, j'ai fait descendre un seau d'eau. Et il est probable que ces hommes, ils sont vivants aujourd'hui en Allemagne quelque part. Ils ont mon âge, ils avaient à peu près on était à un ou deux ans près les uns des autres. Et il est probable qu'ils sont vivants aujourd'hui. Parce que 3 ou 4 jours après, ils ont été remis aux armées américaines. Et on a dû les mettre dans un camp temporairement où ils ont été traités humainement. Et ils ont été libérés ensuite.
Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute.
Pendant ton maquis, il y a aussi une autre histoire assez remarquable, parce que tu avais rencontré un jeune Lituanien.
Eh oui, ah oui, j'ai des tas d'histoires. Eh oui, un jour, on a eu un déserteur de l'armée allemande, en habit d'allemand, qui est venu se présenter au maquis. Alors là aussi, le fait que je parlais allemand fait qu'on me l'a affecté à moi, que je l'ai interrogé et tout et tout. C'était, je crois qu'il s'appelait Wilky Bigniew, mais je ne suis plus très très sûr de l'identité. Et ce garçon m'a dit, ben voilà, je suis soviétique, lituanien. Je suis soviétique et je suis lituanien. Et j'ai été obligé de m'engager dans l'armée, d'accepter d'entrer dans les Einsatzgruppen, c'est-à-dire dans les supplétifs de l'armée allemande, mais j'ai mis une condition, ne pas combattre sur le front de l'Est, c'est-à-dire combattre contre mes frères de l'armée rouge. Et je me suis juré que dès que j'en aurai l'occasion, je déserterai. C'est ce que je viens de faire aujourd'hui. Alors évidemment, on l'avait à l'œil, hein, sérieusement. Il était arrivé avec son fusil de combat et tout, et j'ai beaucoup discuté avec lui. Ce garçon, il était un peu plus jeune que moi. Il avait été au Komsomol, naturellement, aux jeunesses communistes. Il avait grandi, après il avait été dans l'armée. Et ils avaient été encerclés par les nazis, lors de la première grande poussée, et faits prisonniers. Mais les nazis, parce qu'on parle souvent de ceux qui sont morts, on parle des 6 millions de juifs, et c'est une réalité qu'il faut absolument pas contourner. On parle des autres millions de... Mais il faut surtout savoir aussi que les nazis ont anéanti des millions et des millions de prisonniers de guerre soviétiques, polonais et d'autres nationalités. Ça a été quelque chose d'absolument terrible. Et des populations civiles. Or, ce garçon, il était dans un camp où les nazis ne leur donnaient rien pour manger. Et il m'a assuré qu'ils avaient survécu un certain temps avec d'autres en découpant des mollets ou des cuisses de cadavres humains pour manger de la viande. Et alors les nazis leur disaient, si vous acceptez de vous engager dans notre armée comme supplétif, donc vous êtes sauvés, ou bien vous allez continuer à crever ici. Lui, il avait donc signé cet engagement et il avait été affecté sur le front de l'Ouest, c'est-à-dire dans la région de Pontarlier. À Pontarlier, d'ailleurs, il faut dire les choses, c'est que la prise de Pontarlier a été faite contre les Russes. Hein. Les Russes de l'armée Vlassov, c'était la fameuse armée Vlassov. Mais alors celui-ci, moi je peux dire, parce que je suis le témoin absolu, il s'est conduit remarquablement bien au maquis. Nous avons fait ensemble une expédition assez dangereuse en traversant les lignes continues allemandes qui se repliaient pour récupérer du matériel parachuté qui n'était pas tombé au bon endroit. Et il n'a jamais trahi jusqu'au bout et finalement il est reparti par Odessa. Et quelques années après, quand j'étais cadre du Parti communiste français, j'ai reçu du comité central une lettre qui avait été transmise par mon comité central de l'ambassade soviétique disant que un condamné à mort, qui s'appelait donc, je crois, Wilky Bigniew, mais je ne suis pas tout à fait sûr, je ne me rappelle plus très bien son identité exacte, avait invoqué devant le tribunal, il était condamné à mort, mais il invoquait devant le tribunal qu'il avait déserté dès qu'il avait pu et qu'il avait combattu dans les rangs des résistants français, des partisans français, et qu'il avait comme témoin l'aspirant Jacquin qui parlait allemand avec lui. C'était moi. Et le parti connaissait nos fausses identités. Ce qui fait qu'on m'a retrouvé rapidement, et naturellement j'ai fait une attestation, on ne peut plus... Je dirais pas élogieuse, on ne peut plus réaliste de ce qui s'était passé avec ce garçon. Et c'est reparti par le comité central et l'ambassade. Est-il vivant ou non, j'en sais rien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je peux te dire, c'est pas un secret parce que je trouve ça normal. Il y a maintenant 6 mois, 1 an, je l'ai encore sur mon ordinateur, sur mon disque dur. Je lui ai envoyé une lettre à l'ambassade de Lituanie, puisque la Lituanie est un pays indépendant maintenant. En leur expliquant tout ça et en disant que j'aimerais bien savoir si ce garçon était encore vivant. Et je n'ai jamais eu de réponse. J'ai pas eu de réponse. J'ai essayé d'eux, en leur disant, voilà, il était en telle année, à tel endroit, etc. Il a été condamné à mort. Tu vois, j'ai tout raconté dans la lettre, je me retrouverai un jour, si tu veux. Mais ils m'ont pas répondu. Faut dire que les Lituaniens qui sont au pouvoir actuellement sont pas tellement favorables aux soviétiques, enfin, à la période soviétique. Je dois dire que ce jeune homme avec qui je discutais, il me disait qu'il avait été au Komsomol, il honorait Staline, bien entendu, tout ça. Enfin, je veux dire que il était même pas aussi formé politiquement comme communiste que moi-même. Je l'étais plus que lui, parce que moi j'avais quand même toute une vie politique derrière moi, ne serait-ce qu'à travers la famille.
Encore le cri des loups sur la grande steppe de chez nous. Pleine, ma pleine, dans l'immensité de neige, entends-tu le pas des chevaux, entends-tu le bruit de ses galops. Entends-tu ces voix lointaines, des cavaliers qui vers leur sang reviennent, sous le ciel se rochent en s'en va.
Vie quotidienne des maquisards, comment ils vivaient?
Elle a été différente d'un moment à l'autre, mais ce que je peux te raconter, bon, la vie dans le maquis refuge, qui a duré pas mal de temps, pendant 5 ou 6 mois, en pleine forêt, on ne sortait absolument pas. On était dans une baraque en bois, on coupait du bois et on sciait des rondins de 1m30 et de la charbonnette de 80 cm, qu'un char à bœuf conduit par un paysan venait chercher et qui était vendu au marché noir, ou je sais pas sur quel marché, ce qui permettait aux gardes des eaux et forêts qui nous ravitaillaient d'acheter notre pain, mais nous ne sortions jamais, on ne bougeait pas. Alors ça, bon, on se levait tout le matin, on travaillait, des fois on travaillait pas, s'il pleuvait en particulier, on restait dans la baraque, et c'est un très bon souvenir pour moi, c'est paradoxal, mais c'est un souvenir de liberté et de jeunesse. On n'avait pas peur, on n'avait pas spécialement peur, on écoutait la radio avec un poste à galène. Je sais pas si tu connais le poste à galène, la petite pierre que l'on gratte, et on arrivait à entendre Radio Sautance, c'est-à-dire Radio Genève. Et on avait comme ça des nouvelles. Et on apprenait par Radio Genève régulièrement tous les noms des villes qui venaient d'être reconquises par l'armée rouge. Alors ça nous enthousiasmait, moi j'étais communiste, mais les autres ne l'étaient pas. Là, ils étaient pas engagés politiquement, c'est évident, ils étaient réfractaires au départ. Voilà. Et ça, c'était au bois. Mais après le bois, les premiers temps, disons en juin, juillet, jusque vers le 15-20 juillet, j'ai tout le temps vécu dans la forêt, sous une tente de camping, avec Roger Robe, qui était le capitaine Robe, qui est mort comme colonel d'ailleurs, et qui était le patron de la résistance dans tout le coin, qui avait un sacré palmarès de résistance, de sabotage de voies ferrées depuis 43 et même... peut-être fin 42, ils avaient commencé à se réorganiser. Parce qu'il faut pas se faire d'illusions, la résistance réelle, je veux dire militaire, active, n'a pas commencé très tôt en France. Il y a eu des réseaux, tout ça, mais faut pas venir raconter des histoires. Hein. Les actions de sabotage de voies ferrées ou d'attaque, bon, ça a eu lieu beaucoup en 43, pas avant 43, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors bon, on se levait tôt le matin, et moi je faisais l'agent de liaison en bicyclette souvent. Donc j'allais, parce qu'il y avait des c'était l'état-major, ça, régional. Il y avait des maquis un peu partout. Donc ils me donnaient des missions avec du papier, des messages que je tapais à la machine sur du papier pelure, très mince. Et je partais en bicyclette et j'allais sur les routes du Jura porter ça dans d'autres coins de montagne qu'on connaissait, à d'autres groupes, tout ça. Ça, c'était dans la première période. Et puis, dans cette première période, il y a eu des incidents très vifs parce que les Allemands ont occupé la ville de Salins. Ils ont fait des arrestations. Ils ont arrêté la femme, l'épouse de ce Robe dont je parle, Madame Robe, qui était professeure de mathématiques au lycée. Ils l'ont arrêté, ils l'ont emmené. Et il y a eu des histoires extraordinaires. C'est que la fille de ce Robe, elle s'appelait Joël. Et un de nos maquis avait arrêté deux femmes, les femmes lesnes, dont la mère et la fille. La mère était allemande, la fille était allemande et française ou alsacienne. Et on avait appris, ce qui était une réalité absolue, qu'elles étaient des agentes de la Gestapo. Alors elles avaient été prises et le maquis les a fusillées. C'est Rob qui a commandé l'exécution dans la forêt. Et au moment... Alors cette fille, elle avait un enfant d'un officier supérieur allemand de Besançon. Et cette petite s'appelait Joël, le même prénom que sa fille. Et au moment d'être fusillée, cette jeune femme, la mère a été... La mère allemande avait eu un comportement digne jusqu'à la fin. Elle n'avait pas craqué. Mais au moment de mourir, d'être fusillée, la fille a crié pour ma Joël. Non, 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 pour ma fille Joël, je vous en prie. Alors Rob m'a raconté ça dans l'obscurité du soir sous la tente, m'a raconté ce qu'il pouvait avoir ressenti, d'autant plus que sa femme était déjà arrêtée aussi. Alors c'était la petite Joël, était toute petite à ce moment-là. Elle avait 2 ou 3 ans, quoi, pas plus. Ah, c'était une période très tendue, très, très... très intense.
Les Allemands étaient chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai
rapport entre les maquis et la population des environs.
Tu es en train de te dire que on était un peu comme des poissons dans l'eau, parce que d'une manière générale, on était tout à fait reconnus par la population. Il faut dire que c'était en 44, attention, hein. C'était pas loin de la... C'était 2 mois avant la libération, ou 2 mois et demi. Dans un village qui s'appelait Ivré, qui est au-dessus de Salins-les-Bains, pas loin de Mouchoir, qui est au sud de Besançon, il y avait un maquis. Mais le maire et le fils du maire nous aidaient énormément. Et alors, il y avait un groupe de patriotes FTP, encadré par un capitaine Georges, qui était un communiste, que je connaissais, et qui était le gendre de Octave Rabaté, qui fut l'administrateur de l'Humanité pendant de longues années, notamment après sa déportation. Et les Allemands ont fait une attaque contre les FTP. Ils en ont tué un ou deux. Il y a d'ailleurs un monument là-bas. Et après, ils se sont rabattus sur Ivré, où nous étions. Et moi, je me trouvais... Au moment où les Allemands sont arrivés, c'était un village en longueur, heureusement, fort heureusement, pour moi. J'étais avec d'autres maquisards, en short comme je suis là et tout ça. On était à une fontaine de village, tu vois. Une large fontaine, c'est avec une grande margelle, tu vois, ces belles fontaines de nos villages franc-comtois, puis dans toute la France. On était en train de se laver, de se raser notamment. Et tout à coup, il y a des paysans de quoi là, qui ont commencé à nous crier « Attention, attention, regardez, regardez, il y a les Allemands qui arrivent, les Allemands qui arrivent !» Et effectivement, les Allemands arrivaient. Mais toute la population nous avait prévenus. Ce qui fait qu'on est passé par derrière, on n'a eu qu'à traverser un champ et on s'est retrouvé dans la forêt. Et depuis loin de la forêt, on regardait ce qui se passait. Et en fait, les Allemands ont arrêté le maire et son fils. Et le fils a été tué. Le maire a été emmené à la butte à Besançon. Il a été relâché peu de temps après parce qu'il a nié, etc. Mais ils avaient tué son fils quand même. La population d'une commune comme Ivré savait qu'il y avait dans la forêt devant, dans la forêt derrière, qu'il y avait des groupes de FFI, de maquisards, tout ça. On avait d'excellents rapports partout avec la population. Je dois dire que dans des petites villes comme Poligny, Arbois, Mouchard, Salins, Champagnole et Dole, il y a eu des miliciens, quelques miliciens, mais dans la bonne période pour eux, c'est-à-dire fin 42 et courant 43. Mais ces miliciens, on les a comptés sur les doigts d'une seule main. Dans la ville de Poligny, par exemple, on a connu un milicien qui était un petit commerçant en joaillerie. Il s'appelait Monsieur Salins, et ce Salins, je suis allé couvrir son procès pour un journal socialiste d'ailleurs, et puis pour le journal de la Fédération communiste à Besançon. Il était condamné après à l'indignité nationale à vie et à 15 ans de prison comme milicien, parce qu'il avait fait des dénonciations, tout ça, tu vois. Mais c'était vraiment l'exception. Il y a eu des règlements de compte, il y a eu quelques types qui ont été pris par des maquis quelquefois plus ou moins contrôlés, plutôt moins contrôlés que plus, que trop. Et il y a eu, enfin, ce que j'appelle des exacts. Un bonhomme qui s'appelait le père, enfin, le nom m'échappe maintenant. C'était un vieil imprimeur, c'était un type de l'âge de mon père qui avait fait la Verdun aussi. Et ce con-là, alors lui, après 41, 42, partout, il allait partout en criant « Vive Pétain !» Vive le maréchal, il nous a sauvés, patati patata, des conneries. Mais il n'avait pas été un agent de renseignement des nazis, c'était un braillard, quoi. Puis surtout que c'était un bonhomme qui usait bien de la bouteille, hein. Et dans le Jura, hein, il y a de l'alcool, il y a de l'eau de vie, il y a tout ce qu'il faut pour, et puis il y a les bons vins que tu sais, et il buvait trop. Eh ben, la libération, ce pauvre bougre, il a été pris par un maquis incontrôlé, ils l'ont emmené dans la montagne, ils l'ont fait creuser sa tombe, et ils l'ont fusillé au bord, et il a été enterré. Il l'aurait mérité qu'on lui donne une bonne paire de claques, c'est tout, surtout compte tenu de l'âge qu'il avait, déjà dès ce moment-là. Mais autrement, je te dis, les rapports avec la population étaient bons. Et je suis le seul survivant des trois principaux de la résistance, de l'affaire d'Ornans. Ornans, qui est dans le sud du Doubs, occupé par les troupes allemandes du Feldmarschall von Felbel, parce qu'il y avait eu des maquis, je sais pas ce que, je me rappelle plus ce qui s'était passé exactement. Oui, on était nombreux, les maquis, tout, on commençait à progresser en montant vers Besançon. Et il y avait là un lieutenant ou un capitaine qui s'appelait Ring. Il avait pris 150 otages. Et il avait dit, si vous ne nous rendez pas tous les, parce qu'à ce moment-là, il y a eu un courant de désertion chez les Polonais, les Ukrainiens et les Russes. Il désertait, il désertait, il désertait. Il voyait bien que c'était la fin. Et comme il y avait eu ce courant de désertion et que ces types venaient chez nous, alors à ce moment-là, on leur faisait pas comme avec mon Lituanien. On les encadrait pas pour les faire combattre. Ils voulaient plus combattre. Ils désertaient, mais ils voulaient être faits prisonniers, si tu veux, et sauver leur peau. Comme il y avait ce courant de désertion, donc Feldbel et le capitaine Ring avaient dit, voilà, si vous ne nous restituez pas les déserteurs slaves des pays de l'Est, on va fusiller 150 habitants d'Ornans. L'état-major, c'est-à-dire Robin, le capitaine de Valbert, qui était en fait l'abbé Jacques Charrière, et moi, le petit Jacquin, nous avons eu à répondre au curé que l'état-major allemand nous a envoyé au maquis, pour nous porter un message et nous mettre ce message combinatoire. Et c'est moi qui ai dactylographié sur notre petite machine portable, qui ai dactylographié la réponse, qui était de lui dire, on vous tient pour responsable, s'il y a un seul cheveu d'un habitant d'Ornans qui est touché, on vous dénoncera comme criminel de guerre. Et on a tenu tête, et on l'a menacé de déclencher une offensive généralisée de tous les maquis de la région. Et lui, il surestimait énormément le nombre de maquis. Et finalement, ils ont laissé tomber les otages. C'est l'affaire d'Ornans, l'affaire des otages d'Ornans qui a fait grand bruit à l'époque. Mais contrairement à ce qu'ils ont fait dans certains villages, comme Dortan, pour ne pas citer Oradour-sur-Glane, Dortan dans l'Ain, ou Oradour-sur-Glane dans la Haute-Vienne, là ils ont tué tout le monde, là ils n'ont tué personne.
Quels étaient ces hommes qui préparaient ainsi les armes secrètes de la France? Ils étaient les francs-tireurs et partisans du Front National, les corps francs du mouvement de libération nationale, ceux de la résistance, l'organisation civile et militaire, et d'autres encore qui sont venus former les forces françaises de l'intérieur.
C'était l'histoire continue permanente, une émission animée par Éric Lebreux sur les zones de Radio Galère 88.4 de la bande FM DAB+. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger en podcast sur le site de Radio Galère.